Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Sommaire de ce point, actualité, les négociations entre les Kurdes syriens et le pouvoir central se sont totalement effondrées, selon un responsable kurde, alors que l'armée masse des renforts face aux zones autonomes kurdes dans le nord-est du pays. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a dénoncé une attaque sans précédent après la démolition par Israël de bâtiments de son siège de Jérusalem-Est. Et enfin en France, Sébastien Lecornu engagera cet après-midi la responsabilité de son gouvernement sur la partie des recettes du budget de l'État pour 2026, le premier d'une série de 3-49-3. Et on débute ce rendez-vous d'information par l'actualité au Moyen-Orient où les négociations entre les Kurdes syriens et le pouvoir central se sont totalement effondrées selon un responsable kurde alors que l'armée masse des renforts face aux zones autonomes kurdes dans le nord-est de la Syrie. Le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, a juré de ne jamais abandonner les Kurdes de Syrie face à l'offensive de l'armée. Dans un tout autre volet, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a dénoncé une attaque sans précédent après la démolition par Israël de bâtiments de son siège de Jérusalem-Est. Et sur la situation en Iran, le Conseil des droits de l'homme va se réunir ce vendredi en urgence pour débattre sur la détérioration de la situation des droits humains dans le pays après la répression des manifestations contre le pouvoir, selon l'ONU. Dans le reste de l'actualité internationale, le président américain Donald Trump a annoncé ce mardi une réunion sur le Groenland avec les différentes parties en marque de Davos. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis une réponse ferme aux menaces répétées de Donald Trump sur le Groenland et les droits de douane. Dans un tout autre volet, l'Espagne a entamé ce mardi un deuil national de 3 jours après la collision tragique de 2 trains ayant fait au moins 41 morts dimanche soir en Andalousie, où la famille royale est attendue à la mi-journée aux côtés des familles des victimes et des rescapés. En France, Sébastien Lecornu engagera cet après-midi la responsabilité de son gouvernement sur la partie recette du budget de 2026, le premier d'une série de 3-49-3 qui devrait permettre la promulgation du texte avant la mi-février. Dans un tout autre volet, Marine Le Pen est appelée ce mardi à la barre au procès en appel à Paris des assistants parlementaires du Front National, où elle joue sa candidature à la présidentielle de 2027. Et enfin, des milliers d'agriculteurs sont attendus à Strasbourg pour exprimer leur rejet de l'accord commercial avec le Mercosur et mettre la pression sur les députés européens à la veille d'un vote sur une saisine de la justice. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. On débute par ce nouveau coup de tension entre Paris et Washington. Donald Trump menace d'imposer 200% de droits de douane sur les vins et champagnes français. Une riposte au refus d'Emmanuel Macron de rejoindre le Conseil de paix proposé par le président américain, présenté comme une alternative à l'ONU. À l'Élysée, on dénonce une pression inacceptable pour influencer la politique étrangère française. On fait le point avec vous, Nadia Bencher.
Donald Trump hausse le ton. Le président américain menace d'appliquer 200% de droits de douane sur les vins et champagnes français. Il réagit au refus d'Emmanuel Macron de rejoindre son conseil de paix. À Paris, l'entourage du chef de l'Élysée répond fermement. Il juge ces menaces inacceptables et inefficaces et affirme que la France n'entend pas donner suite à ce stade à l'invitation américaine. Ce conseil de paix est présenté par la Maison-Blanche comme un outil pour contribuer à la résolution des conflits. Mais une charte relative à ce conseil décrit une organisation qui ferait concurrence à l'ONU. Le texte critique des institutions qui ont trop souvent échoué et plaide pour une structure plus agile. Surtout, la charte place Donald Trump au centre. Il serait le premier président avec de très larges pouvoirs. Il invite les dirigeants, contrôle l'agenda et doit approuver les décisions, ce qui lui donne de fait un droit de veto. Autre point, un ticket d'entrée, $1 milliard versé la première année, permettrait d'obtenir un siège permanent. En France, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, dénonce une menace inadmissible. Elle parle d'un geste brutal et d'un outil de chantage ciblant la viticulture en difficulté, dit-elle, mais aussi fleurons de l'agriculture française. L'enjeu économique est important. Les États-Unis sont le premier marché à l'export pour la France. En 2024, Paris y a vendu 2,4 milliards d'euros de vin et 1,5 milliard de spiritueux, soit environ un quart de ses exportations.
Merci Nadia Bencher pour toutes ces précisions. Et l'Union européenne prépare sa réponse au chantage économique de Donald Trump sur des droits de douane liés au soutien vers le Groenland. Un sommet extraordinaire du Conseil européen est prévu jeudi prochain. L'Union européenne est-elle suffisamment unie quand on voit par exemple que le continent allemand a déjà quitté le Groenland? Fabienne Keller, députée européenne et questeur du Parlement européen, est au micro de François-Xavier de Calonne.
Il y a une solidarité forte, mais elle pourrait encore être plus marquée. Alors sur les contingents qui ont fait des allers-retours, ils avaient des missions différentes. Je crois qu'il ne faut pas surévaluer non plus les mouvements de peu de personnes. Hein. Je crois qu'on parle de quelques dizaines de militaires. Ce qui est clair, c'est que la dimension opérationnelle militaire européenne doit être renforcée. Ça passe par les commandements et ça passe par des prises de décision communes et concertées. Mais nous avons de la pratique en termes de concertation, en termes de compromis. Donc je suis certaine que ces nouvelles circonstances nous conduiront à être plus efficaces encore ensemble, en équipe Europe.
Et êtes-vous certaine que les États-Unis ne pourront pas acheter le Groenland ?
Écoutez, le Premier ministre du Groenland est venu devant le Parlement européen en session plénière en octobre, affirmé très clairement qu'il faisait partie avec son peuple de l'Europe et demandant notre soutien, des coopérations plus fortes, plus marquées. Donc en termes démocratiques, il vient d'être élu au printemps dernier. Pas de doute sur le fait que le peuple du Groenland souhaite pleinement être partie de l'Europe. J'ai à partir de là du mal à imaginer qu'ils acceptent d'être achetés. On a vu, je crois que c'était la moitié de la population de tout le Groenland, dans la capitale du Groenland, samedi dernier, manifester pour dire son refus d'être acheté par les États-Unis. Donc voilà, c'est le choix du peuple du Groenland. C'est donc un choix que l'Europe soutient et se réjouit de garder en son sein ce grand territoire lié à la couronne du Danemark.
Et vous venez d'écouter Fabienne Keller, députée européenne au micro de François-Xavier Docalonne. Et notre dernier dossier du jour est consacré à un grand pays francophone au cœur de l'Afrique, la situation de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise a annoncé avoir repris le contrôle de la ville stratégique d'Uvira, et cela après le retrait des combattants du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. À notre micro, la sénatrice de la République démocratique du Congo, Vicky Katumwa Mukalai.
La situation, elle est toujours restée au statu quo. Je ne veux pas vous dire qu'il y a des avancées significatives, mais sur le front des affrontements, il y a quand même des lignes qui bougent, comme vous l'avez si bien présenté, avec les menaces de sanctions des États-Unis et d'autres pays amis à la RDC. Et la rébellion, la soi-disant rébellion M23, mais c'est le Rwanda, parce que ce sont les forces spéciales rwandaises qui ont pris la ville d'Uvira. C'est enfin un semblant de retrait, mais ils sont toujours restés aux alentours. Selon le communiqué du gouverneur du Sud-Kivu, M. Poussi, ces forces rwandaises sont aux alentours à 10-18 kilomètres de la ville d'Uvira et ça n'augure pas aujourd'hui la paix effective dans cette entité.
Et justement, quel est l'impact aujourd'hui pour les populations sur place?
Mais l'impact, c'est que l'impact est très mauvais parce que il y a des déplacés de guerre qui vivent dans la précarité la plus totale au niveau des pays voisins, au niveau du Burundi, au niveau de la Tanzanie. Ils sont dans des cas montés ou érigés par les HCR, mais ce sont des cas de fortune. Ce sont des cas de fortune où la population manque du tout. Et c'est pour cela que nous en appelons à l'aide humanitaire internationale pour appuyer les efforts du gouvernement congolais par rapport à ça, par rapport aux déplacés. Un autre appel, le plus criant, c'est la paix. La population de la RDC, de l'Est de la RDC, n'a besoin que de la paix.
Et vous venez d'écouter la sénatrice de la RDC, Vicky Katumwa Mukalai, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.